Prise de terre. Lucile Solari.
Bonjour à tous et bienvenue sur Terre.
Une nuit, des personnes sont venues avec des camions et ils ont menacé avec des armes et ils leur ont volé leur plage. Et je me suis dit, mais ça veut dire que le sable, il a vraiment maintenant une valeur marchande qui permet ce genre d'exaction.
Ben oui, hein, imaginez que vous arrivez cet été sur votre plage préférée et pof, plus de plage. On vous a volé votre plage. Absurde, me direz-vous. Ben, finalement, pas tant que ça, puisque ce phénomène se produit déjà au Maroc. Pourquoi ? Eh bien, parce que le sable est une ressource qui, elle aussi, comme d'autres, commence à se faire rare au fur et à mesure que notre appétit grandit. Du sable, vous allez l'entendre tout à l'heure, on en met absolument partout, sans que ça nous gratte. Dans le béton, bien sûr, mais aussi dans une kyrielle de produits manufacturés. Et il représente, ce sable, un marché énorme. Radia sur le sable, c'est le dossier que vous propose ce matin Marion Urban. Et puis en seconde partie d'émission, un sujet, allez, nettement plus réjouissant, balade en mai le long du Nant d'Avril. Alors le Nant d'Avril, c'est une toute petite rivière transfrontalière qui coule dans le canton de Genève et qui vient d'être libérée de son carcan de béton. On appelle ça une renaturation et c'est Jennifer Schloup et Alexandre Vizard, les deux artisans de cette renaturation au canton de Genève, qui nous le fera découvrir tout à l'heure. Voilà le menu principal de Prise de Terre. Maintenant, c'est l'entrée, la mise en bouche avec l'actu environnementale commentée par les rédacteurs en chef de la presse écrite.
Allô la Terre ? Allô la Terre ?
Voilà, et ce matin, c'est Hervé Kempf, rédacteur en chef du magazine en ligne Reporter.net qui est avec nous. Bonjour Hervé.
Bonjour Lucile, bonjour à tous.
Hervé, vous reprendrez bien un petit peu d'huile de palme, hein ? Après tout, ça ne dérange que quelques orang-outans et puis allez, une poignée de paysans pauvres d'Asie du Sud-Est.
Absolument, sans oublier des dizaines d'arbres qui méritent aussi notre attention, des dizaines de milliers d'arbres, pardon. Effectivement, l'huile de palme, c'est donc une huile qui a d'énormes qualités, mais qui peut aussi être utilisée dans les biocarburants, dans les agrocarburants, et c'est ce que veut faire la grande compagnie pétrolière française Total, qui va ouvrir à Lamed, près de Marseille, une grande usine pour faire 500 000 tonnes par an de biodiesel avec, devinez quoi, eh bien, de l'huile de palme importée. Et surprise, l'État français a donné son feu vert pour cette opération. Alors pourquoi est-ce que c'est grave ? Bah parce que cette huile de palme, elle est fabriquée et elle sera importée surtout d'Indonésie et de Malaisie. Et dans ces pays, on cultive l'huile de palme en mangeant peu à peu la forêt, en déforestant la forêt tropicale, notamment sur l'immense île de Bornéo.
C'est d'autant plus embêtant que quand on connaît un peu la problématique, évidemment, on peut boycotter les produits à base d'huile de palme que l'on consomme couramment. On sait qu'il y en a, par exemple, dans la margarine, dans les biscuits, dans plein de choses. Mais là, quand c'est dans du carburant, ça devient plus compliqué, quoi.
Ben oui, ça devient compliqué parce que bon, on peut faire du vélo, mais souvent on a besoin d'automobiles et pour les automobiles marche au carburant. Donc là, c'est un vrai choix politique qui est à faire et malheureusement, ce choix a été fait dans le mauvais sens. Je reviens aussi sur les orang-outans parce qu'on a publié aussi une enquête sur les orang-outans dans le nord de Bornéo, à Malaisie. Et il y a une étude de la revue scientifique Current Biology qui est parue en février et qui dit entre 1999 et 2015, c'est-à-dire une période très courte et très récente, 148 000 orang-outans ont disparu dans l'île de Bornéo, c'est-à-dire plus de la moitié de la population en quelques années. Donc il y a vraiment urgence pour la forêt tropicale, urgence pour les orang-outans, et ben voilà, il faudrait mettre un coup d'arrêt à ces importations d'huile de palme.
Alors c'est vrai que cette autorisation qui est préfectorale et ministérielle, hein, elle est plutôt étonnante de la part de la France. D'abord parce que l'Europe va plutôt à contre-courant de ce que veut apparemment la France. Et puis aussi parce que Nicolas Hulot, donc votre ministre de l'Environnement, s'était prononcé en juillet 2017 pour la fin des importations de produits agricoles contribuant à la déforestation, ce qui est évidemment le cas de l'huile de palme.
Oui, alors vous dites qu'on a un ministre de l'écologie, j'en
dis de l'environnement.
De plus en plus fortement. Je ne sais pas si en France il y a un ministre de l'environnement. On a quelqu'un qui fait des discours, qui dit des très beaux mots, qui est très populaire, mais qui, quand les actes sont là au pied du mur, eh bien ne pèse pas. Voilà. Et donc il avait effectivement dit il faut arrêter les importations d'huile de palme. Il est tout à fait au courant de cette problématique de la déforestation, mais il a cédé au gouvernement. Et devinez pourquoi ? Eh bien la France veut vendre vendre des avions Rafale, des avions militaires à la Malaisie, qui est en train de renouveler sa flotte militaire. Et quand vous avez 10 ou 15 ou 16 avions Rafale qui pèsent chacun plusieurs centaines de millions d'euros face à un problème d'orang-outan et de forêt tropicale, eh bien le choix est vite fait. La Malaisie avait protesté auprès de la France en laissant entendre que si elle refusait l'importation d'huile de palme, la Malaisie pourrait reconsidérer son achat de Rafale et se tourner vers d'autres avions. Eh bien, ça a été manifestement entendu par le gouvernement français, où le supposé ministre de l'Environnement n'a pas grand-chose à dire.
Bon, c'est assez désespérant, Hervé Kempf. Du coup, on fait quoi ? On fait quoi, nous ?
Eh bien, écoutez, on continue à se bagarrer, vous avec la radio, nos auditeurs, vos auditeurs et auditrices en faisant attention et en se bagarrant. En France, nous avec les médias d'environnement, et puis aussi parce qu'il y a, c'est les Amis de la Terre qui bataillent depuis des années pour jeter la lumière sur cette raffinerie et ses problèmes d'importation d'huile de palme. C'est Greenpeace aussi qui a relancé l'information là-dessus. Je crois qu'on est un peu démunis face à ces gouvernements et à ces logiques économiques, mais malgré tout, il faut continuer à informer, à témoigner, à manifester, à protester, et à la longue, on finit par être entendu. En tout cas, même si on se sent impuissant, il faut continuer à agir, à protester, à s'informer, à témoigner.
Et pour informer, il y a reporter.net, magazine quotidien environnemental en ligne et en accès libre, je le rappelle. À la une de reporter.net aujourd'hui.
Aujourd'hui, ben un joli Radio Bambou, c'est notre émission de radio pour les enfants.
Ah, vous mettez à faire de la radio aussi, Hervé.
Ben oui, on a une petite chronique tous les 15 jours. On adore la radio, autrement on serait pas avec vous, Lucille, et avec les auditeurs. Et Radio Bambou a été à la manifestation des oiseaux. Et c'est les oiseaux qui parlent aujourd'hui à la une de reporter.
Bon, on se réjouit d'entendre ça. J'irai voir. J'irai jeter une petite oreille également. Merci beaucoup, Hervé Kempf, d'avoir été ce matin avec nous. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dans 4 semaines, si je sais compter. À bientôt.
Avec un très grand plaisir. À bientôt.
Et de 1, et de 2, et de 1, 2, 3, et. Vélo va, vélo vole. La voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va. Belle voiture, beau camion, beau véhicule à locomotion, beau wagon, belle station, beau train à très grande vision, bel avion, belle fusée, belle station espacionnée, belle colcose de spationose, bel espace de cosmos rose. Vélo va, vélo vole, la voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va. Belle moto, beau mécano, Spiderman, Superman, belle bécane à arbre à cam, turbochrome d'échappement. Vélo vol, la voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va. Rien ne vaut le pédalo, avec pédale et avec son zoo, qui dévale la vallée, avec sandales et avec ses pieds. Belle péniche, beau canot, belle écluse, bon tirando, beau marin et beau matelot. Mais rien ne vaut le vélo. Vélo va, vélo vole, la voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va, vélo va, vélo vole. la voie va, où vélo va, vélo vire, vélo volte, où va la vie, vélo va.
Où va la vie, vélo va. J'adore cette expression, comme c'est bien vu. C'était Dick Hanegarn à 10h14 sur RTS La Première, et vous écoutez...
Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec du sable, là?
Alors, on est en train de remettre des tampons à la côte pour mettre le bitume sur de la route.
Et vous êtes en train de faire du béton?
C'est ça.
Et quelles sont les proportions pour le mélange?
Alors,
de béton?
Alors, à peu près 60 litres de gravier pour un sac de ciment de 25 kilos. C'est du sable avec...
Et il vient d'où, ce sable?
C'est une gravière qui pioche dans la Saône.
Est-ce que vous êtes conscient qu'un jour, il pourrait ne plus avoir de sable du tout?
Peut-être un jour, ouais. Peut-être. Je sais pas.
Ah. Oui, il a l'air bien dubitatif quand même, ce monsieur. Bonjour Marion Urban.
Bonjour Lucille.
Il a l'air dubitatif parce qu'on a tellement l'habitude de voir du sable autour de nous qu'on n'a pas l'impression que cette ressource, il n'y en aura pas forcément jusqu'à la fin des temps. C'est la deuxième ressource naturelle la plus utilisée, le sable, après l'eau. Et on en fait des tas de choses. Évidemment, on en fait des maisons, on en fait des routes, comme ici, j'imagine, avec ce monsieur qui est en train de travailler. On en fait des barrages, on en met dans l'électronique, dans les ordinateurs, on en met aussi dans les panneaux solaires, dans le verre, dans les cosmétiques. Bref, il y a du sable partout. Et je le disais, on en oublierait presque que ça n'est pas exactement, Marion Urban, une ressource renouvelable.
C'est une ressource renouvelable comme le pétrole est une ressource renouvelable. C'est le facteur temps qui importe. Il faut des dizaines de millions d'années pour obtenir une roche pétrolifère. Alors je ne dis pas qu'il en faut autant pour obtenir du sable, quelques milliers d'années, mais c'est notre appétit pour le sable qui fait toute la différence et c'est cette gloutonnerie qui le rend non renouvelable. On en extrait de plus en plus pour faire face à la croissance démographique et pour nous protéger de la menace des changements climatiques.
Alors c'est un problème qu'on semble découvrir maintenant, très récemment, il y a quelques années seulement. Certains de nos auditeurs d'ailleurs se souviennent sans doute de ce film documentaire sur la disparition du sable justement.
Oui, c'était un film documentaire de Denis Delestraque qui a déjà alerté pas mal de monde. Mais il y a aussi en mars 2014, Pascal Pedouzi, le directeur du GRI de Genève, une section du programme des Nations Unies pour l'environnement. Pascal Pedouzi a publié un article qui a eu un certain retentissement. Pour lui, le sable est plus rare que ce que l'on pense. C'est d'ailleurs le titre de son article. La révélation est venue à l'occasion d'une mission sur le terrain.
Lors d'une mission en Jamaïque, où le gouvernement jamaïcain nous avait mandaté, le programme des Nations Unies pour l'environnement, pour savoir pourquoi leurs plages subissaient de vastes retraits. En fait, il y a une érosion côtière considérable. Ils voulaient savoir de combien il y avait cette érosion et ils voulaient savoir pourquoi. Et lors de cette étude, nous avons réalisé des études avec des satellites, avec des modélisations, etc. Mais il y avait aussi une partie plus consultative. Et là, lors d'une enquête sur le terrain, nous avions interviewé des villageois dans un petit village de pêche. Et ceux-là nous ont raconté qu'une nuit, des personnes sont venues avec des camions et ils ont menacé avec des armes et ils leur ont volé leur plage. C'est quelque chose qui m'avait vraiment choqué à l'époque de penser qu'on puisse menacer la vie de certaines personnes pour du sable. Ça me paraissait totalement aberrant, mais enfin voilà, c'était ce qu'on nous avait raconté. Et je me suis dit, mais ça veut dire que le sable, il a vraiment maintenant une valeur marchande qui permet ce genre d'exaction. Et je pensais que c'était quelque chose d'anecdotique, ou en tout cas qui n'était resté qu'à cet endroit-là. Et en fait, en me renseignant un petit peu, je me suis aperçu que non, il y avait des endroits où des gens avaient été tués parce qu'ils s'étaient opposés à l'extraction de sable sur une plage. Et en 2010, il y a eu un film qui a été fait par Denis Delestraque, qui s'appelait « Le sable, enquête d'une disparition ». Et en regardant ce documentaire, je me suis aperçu qu'effectivement, ce n'était pas uniquement en Inde, au Mexique, en Jamaïque, c'était vraiment un phénomène global. Et là, j'ai décidé de m'y intéresser, parce qu'en tant que scientifique de l'environnement, j'avais vraiment l'impression d'être passé à côté de quelque chose de très important. Et effectivement, plus j'étudiais cette question de ça, plus je me rendais compte qu'on en utilise une telle quantité, 50 milliards de tonnes par année, vous ne pouvez pas extraire 50 milliards de tonnes de quoi que ce soit sans avoir des impacts importants sur l'environnement. Et c'est effectivement ce qui a été découvert dans ce rapport. Et pour dire, c'est quelque chose qui était passé à côté de tous les décideurs, ou la plupart, puisqu'on considère, et c'est encore le cas maintenant, que le sable est une matière totalement courante et banale, et qu'on en aura une quantité infinie. Or, tout ce que je sais, ce que j'ai appris depuis le moment que je travaille dans le développement durable et l'environnement, c'est qu'il n'y a rien d'infini dans une planète qui, elle, est finie.
Le marché du sable est énorme et l'industrie du granulat se porte à merveille. Les marchands de sable n'ont pas été éclaboussés par la crise internationale et ils pronostiquent même une augmentation constante de la demande. Mais pourvoir à la demande n'est pas toujours simple, ce qui met un sérieux bémol à cet optimisme.
Contrairement à ce qu'on pense, le sable n'est pas un matériau facile à trouver. À l'époque, il y avait des carrières de sable et de gravier. Il suffisait de creuser pour l'extraire et en faire des routes, des ponts, des bâtiments. Mais ça, c'est fini. Il n'y en a plus. On a déjà tout utilisé.
Pascal Peduzzi, les impacts sur l'environnement sont dépendants de l'endroit d'où on extrait le sable.
Absolument. Si vous êtes en carrière, vous allez faire un gros trou. Donc ce gros trou, vous allez d'abord enlever la végétation en surface et ensuite vous avez un problème sur le paysage. Vous avez éventuellement même un problème de nappe phréatique puisque le sable est souvent dans ces zones de gravière qui sont issues des moraines. C'est également là qu'on trouve les nappes phréatiques. Donc ça, c'est pour la gestion du sable pris en carrière. Si vous extrayez ce sable en rivière ou en lac, vous avez un changement de l'hydrologie de cette rivière, de ce cours d'eau. Donc ça peut occasionner des pertes d'érosion des berges. Ça peut également avoir des impacts sur la turbidité de l'eau, donc sur la faune et la flore de ces cours d'eau. Si maintenant vous extrayez ce sable sur une plage, vous imaginez évidemment cette plage fortement impactée qui va moins pouvoir jouer son rôle de protection du littoral. Et ça peut évidemment avoir un impact sur le tourisme, ça peut en avoir un impact au niveau de la biodiversité qui dépend de cette plage, les crabes, les oiseaux, etc. Et finalement, si vous extrayez ce sable des fonds marins, les fonds marins sont là où se constitue le tout début de la chaîne alimentaire de tous les poissons, etc. Donc les petits vers qui vivent dans le fond des mers vont nourrir les petits poissons qui vont nourrir les plus gros, etc. Donc vous allez avoir un impact sur la biodiversité et sur la pêche. À cela encore, on peut rajouter un impact qui n'est pas directement dû à l'extraction du sable, mais à son utilisation ou à son transport. Si vous associez du sable avec du ciment, vous avez un impact sur le climat et le transport également un impact sur le climat.
Pascal Peduzzi, où y a-t-il le plus de sable dans le monde ?
Alors attention, le sable, évidemment, on pense tout de suite au désert et c'est effectivement là que nous avons le plus de sable. Cependant, le sable du désert n'est pas forcément le plus apte à répondre à nos besoins. C'est-à-dire que le sable du désert est un sable produit par l'érosion éolienne qui fait donc des grains de sable extrêmement ronds et petits. Vous prenez du sable du désert dans les mains, il va vous glisser entre les doigts. Très difficile de faire des pâtés de sable comme quand vous êtes sur la plage. À l'opposé, le sable des plages ou le sable marin ou encore le sable issu de l'érosion glaciaire qu'on trouve dans nos moraines, dans nos lacs, dans nos rivières, ce sable est cassé de manière beaucoup plus avec beaucoup plus d'angles, ce qui fait qu'il s'agrège beaucoup mieux ensemble. Donc vous ne pouvez pas utiliser, par exemple, du sable du désert pour faire du gain de territoire sur la mer. Pour ça, vous êtes obligé d'avoir un sable qui se compacte mieux, et donc vous ne pouvez pas utiliser le sable du désert. Pour la construction, certains sables de désert peuvent être utilisés, les déserts de basalte, par exemple, mais la plupart des sables de désert vont aussi faire de piètres matériaux de construction. Et si vous voulez vraiment l'utiliser, vous devez amener un additif chimique qui le rend assez coûteux. Donc pour l'instant, également dans le sable de la construction, on se concentre sur un type de sable qui vient plutôt d'érosion qu'on trouve sur la terre, érosion glaciaire ou des rivières, de lacs, ou encore le sable du littoral. Cependant, le sable du littoral pose problème puisqu'il contient du sel. Et ce sel, il a en effet perturbateur pour le béton puisqu'il va faire rouiller, il va oxyder les fers de béton. Donc il faut encore laver ce sable marin ou de plage pour réaliser des bâtiments, ce qui évidemment requiert d'énormes quantités d'eau douce. Donc voilà pourquoi en fait cette problématique du sable est très complexe, parce qu'on pourrait se dire mais on a plein de sable dans nos déserts, mais la question est un petit peu plus difficile que cela.
Ok, c'est bon, on est prêt à commencer le pompage.
C'est ici, au fond des océans, que nous allons désormais prélever la majorité du sable qui sert à satisfaire notre boulimie. Et l'outil principal des industriels, c'est la drague. Un paquebot gigantesque équipé de bras de succion capable de pomper du fond des mers de grandes quantités de sable.
Une drague peut déplacer entre 4000 et 400 000 mètres cubes par jour.
J'ai pris place à bord d'un bateau-bus depuis le centre-ville de Rotterdam pour me rendre sur la nouvelle extension du port qui a été inaugurée en 2013, le Maasvlakte 2. Le Maasvlakte 2 se trouve près de la mer et à 45 km du centre-ville de Rotterdam. Ah, on est en train de rapprocher.
Le tour du monde du pillage du sable sur la planète est assez vaste. Vous auriez pu nous emmener, Marion, dans bien des endroits, hein, aller au hasard en Asie, au Moyen-Orient ou au Maroc où les plages disparaissent. Vous avez choisi le port de Rotterdam.
Eh oui, pour deux raisons. D'abord parce que les Pays-Bas sont les champions de l'usage du sable. Ils extraient 25 millions de mètres cubes chaque année de la mer du Nord pour des projets d'aménagement, pour gagner des terres et engraisser leurs plages. C'est une question de survie chez eux. Il faut dire aussi que les fonds de la mer du Nord ne manquent pas de sable. C'est une zone malmenée par les tempêtes. Le vent et la mer fabriquent du sable en grande quantité. Ils grignotent les rochers de l'Écosse ou de la Norvège. Et deuxièmement, la dernière réalisation spectaculaire des Néerlandais, inaugurée en 2013, est cette extension du port de Rotterdam. Rotterdam est, je vous le rappelle, le premier port européen et le quatrième du monde, situé à l'embouchure du Rhin et de la Meuse. Les Néerlandais ont construit 11 km de digues, 24 km de routes et de multiples infrastructures pour ce nouveau terminal qui accueille les gros cargos et qui accueille aussi des installations pétrochimiques. Alors cette extension s'est faite à la demande des habitants de Rotterdam, inquiets pour leur environnement et leur sécurité, mais avant tout pour des raisons économiques, comme l'explique Frans van Keulen, l'un des porte-parole de l'administration du port de Rotterdam.
Maasvlakte 2 est construit pour la raison que nous avons besoin de plus d'espace pour le conteneur. Le secteur de conteneur était effectivement sans possibilité de...
C'est in English,
to grow.
Il ne pouvait pas être agrandi.
Oui, et c'est pour cette raison que nous avons construit ce terrain, mais non seulement pour le conteneur, c'est aussi pour l'industrie chimique et pour le offshore, et possible pour les autres activités. La distribution à côté des conteneurs, c'est important. Donc, le port était plein. Et avec la construction de Maasvlakte 2, c'est encore possible de développer cette port.
Ce port a été construit, enfin Maasvlakte 2 a été construit de façon totalement artificielle, c'est-à-dire qu'on a amené du sable, on a amené des rochers, etc. Est-ce que c'est la première fois que le port de Rotterdam gagnait du terrain sur la mer de cette façon?
Non, Maasvlakte 2, c'était le deuxième programme. Avant ça, c'était le Maasvlakte 1 et la méthode est la même. On avait besoin de sable, c'était du fond de mer. On a pris ça, mais les rochers dans les Pays-Bas, nous n'avons pas des rochers, donc nous avons importé ça de la Norvège. Je pense que nous avons
acheté
une montagne, et avec ça, c'était possible de construire une sorte d'un barrage, une digue de protection contre la mer.
Et vous avez une idée de combien de sable et combien de rochers ont été utilisés pour construire cette partie?
Je ne suis pas sûr de le rocher, mais pour le sable de Maasvlakte 2, c'est environ de 280 millions de tonnes. Oui, 280 millions de tonnes de sable.
Et qui ont été récupérées dans la mer du Nord?
Dans la mer du Nord, oui. Il y a un endroit là, je pense que c'est un terrain de 5 à 5 kilomètres. C'est une sorte d'une mine. Et avec ça, dans cette location, c'était possible de...
Une carrière de sable en pleine mer,
oui.
dans la mer du Nord.
Oui, c'est un grand terrain avec une profondeur, je pense, de 15 à ou 20 mètres. Là, nous avons gagné ce sable.
280 millions de tonnes de sable, vous avez bien entendu, pour construire cette extension du port de Rotterdam. Une nécessité dans le cas des Pays-Bas, c'est pas pour rien qu'ils s'appellent les Pays-Bas, et une nécessité qui génère un commerce juteux. C'est là, Marion, qu'on comprend que l'expression marchand de sable n'est pas une simple expression poétique pour endormir les enfants.
Et non, Lucille, le commerce du sable pèse 200 milliards de dollars par année. Il y a 5 grandes compagnies d'extraction du sable qui dominent le marché. La première est chinoise, et ce n'est pas un hasard. La plus grande carrière de sable du monde est située en Chine, au lac Poyong. Et le pays a connu un développement d'aménagement urbain au pas de charge depuis ces dernières années. Il consommerait aujourd'hui 57% du sable mondial. Les numéros 2 et numéro 3 sont des sociétés néerlandaises. Et vous devinez un peu pourquoi, Lucille ?
Le plat pays qui est le leur.
Tout à fait, Lucille. Je vous le disais un peu plus tôt, les Néerlandais sont des experts. Depuis le XVIe siècle, les habitants se battent contre l'érosion éolienne, maritime et fluviale. Ils entretiennent en permanence leur littoral et construisent des digues de plus en plus modernes pour protéger leur pays, qui est effectivement plat, à moins d'un mètre du niveau de la mer. C'est la raison pour laquelle la société Boskalis est aujourd'hui numéro 2 au Billboard international des professionnels du sable. Ils ont participé à la construction des Palm Islands, ces îles artificielles au large de Dubaï en forme de palmier. Martin Schoutvert est responsable de la communication auprès des investisseurs au sein de cette société.
Palm Island est un programme qui a attiré l'attention internationale pour une raison évidente, sa forme. Le projet immobilier qui a été développé sur cette île frappe l'imagination. Notre application dont le projet Palm Island a été quand même limité, le Palm Island comprend 7 îles artificielles, nous étions en charge de ce qu'on a appelé Palm 1. Dans ce type de projet, si vous construisez quelque chose avec du sable, le sable étant un matériau léger, vous devez aussi mettre en place des mesures de protection pour prévenir la disparition du sable. Par conséquent, la barrière de Palm Island devait offrir une surface dure qui protège la fragilité de sa partie interne. En ce qui concerne Cheplapcock, l'aéroport de Hong Kong, il s'agit d'une terre gagnée sur la mer. Elle va au-delà de la côte. Et là, il a fallu extraire du sable avec d'énormes dragues, prendre le sable et l'apporter sur le site où nous l'avons entassé pour construire une terre artificielle et les bâtiments de l'aéroport.
Où prenez-vous tout ce sable qui a été utilisé pour ce type de projet ?
Il y a toujours un propriétaire du sol marin. De façon générale, c'est l'État, le gouvernement. Dans certains pays, le propriétaire peut être une personne privée qui dispose des droits et d'une concession de sable. Mais généralement, c'est l'État qui développe le projet, qui identifie la zone de concession d'où vous allez extraire le sable. Ceci étant dit, nous avons nos propres principes de respect de l'environnement, de respect de la société aussi. C'est une priorité au sein de notre entreprise. C'est aussi important de réaliser que le promoteur d'un projet a des responsabilités, par exemple pour la recherche du financement, mais aussi pour l'obtention des permis. Internationalement, nous voyons qu'il y a pas mal de principes sur le financement bancaire, de normes de réalisation d'infrastructures en mer ou de lignes de conduite de l'OCDE. Ce cadre international garantit que les projets que nous réalisons, les principes, les matériaux que nous appliquons et utilisons le sont de façon responsable.
Boskalis vient de remporter le marché de construction d'un polder au large de Singapour. Singapour, c'est une ville qui a besoin de protection parce qu'elle est régulièrement inondée par des marées qui sont un peu trop fortes. Alors, avec la montée des eaux et avec la fréquence et l'intensité des tempêtes, est-ce que ce sont des types de demandes que vous avez de plus en plus ?
Le changement climatique, l'érosion des côtes, l'entretien du trait de côte, ici aux Pays-Bas, mais aussi sur le plan international, la montée du niveau des océans, les extrêmes climatiques, tout cela crée de plus en plus de travail pour nous. Et la croissance démographique, particulièrement en Asie du Sud-Est, où le nombre de sols disponibles est limité. Gagner des terres sur la mer peut être une manière très séduisante et peu chère pour s'adapter à cette croissance.
Et ben voilà, en d'autres termes, pour les firmes comme Boskalis, les conséquences du réchauffement climatique finalement sont une aubaine en termes de croissance économique, sans que l'on sache au final, parce que Martin Schoutvert n'a pas répondu à votre question, Marion Urban, sans qu'on sache d'où vient exactement ce sable.
Boskalis, et sans aucun doute on aura les mêmes réponses des autres sociétés, assume tout à fait l'idée de l'aubaine face au changement climatique. Ils sont en première ligne puisque leur pays est menacé par la montée des eaux. En revanche, vous avez aussi raison, Lucille, pour répondre à la question « Où puisez-vous votre sable ?» Sable marin s'entend dans ce cas-là. Martin Schoutvert s'abrite derrière un mur de responsabilité. L'État, le donneur d'ordre des travaux, le concessionnaire, pour dire que l'origine du sable n'est pas directement de son ressort. Il va chercher du sable là où on lui dit d'aller puiser. Ce qu'il convient de retenir, c'est qu'en général, on essaie d'extraire le sable au plus près des travaux qu'on a à entreprendre pour limiter les coûts de transport, mais ce n'est pas une règle qui est inscrite dans la pierre. Singapour et Jakarta importent du sable des pays alentours. Alors, aux Pays-Bas, tout comme en Angleterre d'ailleurs, on paie une sorte de dîme pour l'extraction du sable. Il y a un contrôle de quantité extraite, il n'y a pas de convention internationale. Chaque État est souverain et est libre d'appliquer ses réglementations. Problème, elles ne sont pas toujours respectées. J'ai demandé à Pascal Peduzzi du GRI de Genève pourquoi.
Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Dans le meilleur des cas, vous avez une législation en place et celle-ci est respectée. C'est le cas en Europe, c'est le cas précisément au Royaume-Uni, où ils ont des normes qui sont bien respectées. C'est-à-dire que pour extraire, par exemple, du sable marin, vous devez obtenir une concession qui va établir où exactement vous avez le droit d'extraire ce sable, en quelle quantité, et vous allez payer pour cette extraction. Donc là, on a des études qui sont réalisées au préalable, des études d'impact sur l'environnement, qui va dire que voilà, si vous prenez telle quantité, on estime que l'impact est gérable, acceptable. Maintenant, vous avez des pays qui ont une législation en place, mais où, effectivement, la loi n'est pas respectée. Alors, pourquoi c'est le cas? On peut imaginer que si vous êtes à la tête d'un gouvernement local et que vous êtes dans un pays pauvre qui doit développer ses infrastructures, vous avez besoin d'hôpitaux, vous avez besoin de routes, vous avez besoin de barrages, d'aéroports, d'écoles, etc. Vous avez énormément de priorités pour éradiquer la pauvreté, pour améliorer le système de santé, pour améliorer les systèmes de transport. Donc, si vous devez faire une pesée d'intérêt entre... Oui, certes, extraire du sable à un endroit où c'était pas forcément le meilleur endroit au niveau environnemental, mais de l'autre côté, vous avez toutes ces pressions sociales de vos électeurs, vous avez aussi besoin d'aller dans ce sens-là. Et on peut imaginer qu'effectivement, ces pays-là peuvent privilégier le développement, le rattrapage du développement, plutôt que l'environnement, et qu'ils vont le payer peut-être plus tard. Je dis ils vont le payer plus tard éventuellement, parce que si vous commencez à extraire du sable un peu n'importe où, ça peut être par exemple du sable qui est prélevé sur les plages, alors que vous aimeriez faire par la suite en développement touristique. Si vous êtes en train de construire vos hôtels, par exemple, avec le sable de vos plages, ils vont aller où vos touristes? Une fois que votre hôtel sera tout beau, tout bien construit, vous aurez plus des plages qui ressembleront à rien. Donc il faut faire attention de ne pas se tirer une balle dans le pied dans ce type de développement. Il faut vraiment réagir à long terme. Maintenant, le long terme est souvent pas quelque chose qui est très facile à mettre en place avec des politiciens qui, eux, doivent réagir sur du court terme, sur quelques années peut-être. C'est un petit peu leur vision. L'autre cas de figure est carrément des endroits où vous n'avez pas de législation en place. Ça peut être un pays qui a une très faible gouvernance. Imagine un pays qui sort de la guerre, où vous avez un gouvernement qui est lacunaire, enfin tout doit être reconstruit en termes de loi, en termes de gouvernance, en termes d'organisation, de planification, etc. Et puis vous avez énormément de besoins de reconstruction. On peut imaginer ce qui va se passer en Syrie quand on va devoir reconstruire la Syrie. À ce moment-là, la priorité, ça va être quoi? De refaire des logements, de refaire des infrastructures ou bien de préserver l'environnement? Donc voilà la pesée d'intérêts qui est là devant les gouvernements. Et pour l'ensemble des gouvernements pour l'instant, le sable n'est pas une priorité. On a déjà énormément de priorités. On a le climat, on a la biodiversité. Et puis, je parle pas seulement de l'environnement. Vous avez la qualité de l'eau, l'éducation, l'éradication de la pauvreté, etc., etc. Donc c'est difficile pour un gouvernement de tenir en compte de toutes ces priorités et d'avoir un parcours parfait pour l'ensemble de ces choses-là. Mais... pour autant, si on ne respecte pas notre environnement, on finit toujours par le payer, tôt ou tard. Et c'est pour ça qu'il faut incorporer le plus rapidement possible des gouvernances environnementales qui tiennent compte de la durabilité de notre société.
Environ 92% de la consommation de poissons en Indonésie provient de la pêche traditionnelle. À cause du minage de sable, nous perdons nos récifs coralliens. Nous perdons les poissons. Nous perdons le moyen de subsistance des pêcheurs. Nous perdons les revenus des familles de pêcheurs. Nous perdons tout.
L'exploitation du sable met la survie de milliers de familles en danger. Et ses effets pervers peuvent aller beaucoup plus loin.
La surexploitation du sable entraîne des dégâts écologiques, c'est un fait, mais aussi impacte de manière négative certaines économies locales. C'est ce qu'a parfaitement montré le film de Denis de Lestrac, Le sable, enquête sur une disparition. Du coup, Marion, comment est-ce qu'on peut envisager de réduire notre utilisation de sable, ou au moins réduire l'impact dû à son exploitation?
Ben là, je préfère laisser parler l'expert, encore une fois, Pascal Peduzzi, du GRI de Genève.
Alors ce sera un paquet de solutions, parce qu'il n'y aura pas une seule solution qui permettra de remédier à ce problème, tellement la problématique est vaste. Alors effectivement, ça va de l'extraction à la demande. Si on parle d'extraction, il faudrait cartographier les zones où le sable serait moins dommageable pour l'environnement. Où est-ce que l'on peut extraire du sable de manière la plus durable possible? Donc ça veut dire des études d'impact sur l'environnement, cartographier cette information de telle sorte qu'elle soit disponible pour les sociétés d'extraction, qu'on n'aille pas extraire du sable n'importe où et surtout pas sur les plages. Donc de pouvoir mettre à disposition cette information et éventuellement avoir un label. On a déjà le Forest Stewardship Council pour le bois, on a le Marine Stewardship Council pour les poissons. On pourrait imaginer d'avoir un Sand Stewardship Council pour le sable, de sorte que quand on achète en sable avec ce label, on est au courant de la qualité que ce sable a été extrait selon des standards et des normes, tant environnementales que sociales. Donc ça, ça pourrait être une solution. Mais il faudrait évidemment avoir un ensemble de standards qui soient mis en place de comment vraiment bien extraire ce sable. Ensuite, il ne faut pas extraire uniquement un type de sable, parce que si on va tous sur le même type de sable, qui est le sable de meilleure qualité, on va vraiment vers une pénurie de ce type de sable. Il faudrait réserver le sable de catégorie A uniquement pour, je sais pas, par exemple faire du béton dont on a besoin pour faire des piliers de ponts, où là on a vraiment besoin de quelque chose d'extrêmement solide. Après, des sables plus fins ou plus grossiers pour très bien faire l'affaire dans d'autres applications, notamment sur le remblayage ou pour mettre sous nos autoroutes, etc. Donc ça, c'est déjà une chose sur l'extraction, le faire de manière beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Ensuite, pour réduire notre consommation de sable, notre dépendance au sable, il va falloir être beaucoup plus intelligent. Et on peut baser ce nouveau comportement, cette nouvelle manière de penser sur ce qu'on appelle la règle des 5 R. La première règle, ce serait de refuser. C'est-à-dire pourquoi refuser ? Ben parce que des fois, on n'a pas besoin d'une telle infrastructure. Donc on peut repenser déjà, est-ce que vraiment j'ai besoin de cette nouvelle infrastructure ? La deuxième, c'est de réduire la quantité de sable, substituer par exemple par d'autres matériaux ou encore affiner la quantité pour vraiment répondre aux normes de sécurité et de solidité, mais pas de faire quelque chose qui soit trop gourmand dans cette demande de matériel. Le troisième R, c'est la réutilisation. On peut imaginer des infrastructures qui arrivent en fin de vie mais qui n'ont pas forcément besoin d'être démolies, mais qui peuvent être réaménagées, qui peuvent être transformées, passer d'une école en hôpital ou de bureau en habitation. On n'a pas forcément besoin de raser le bâtiment. Le quatrième R, c'est de recycler. C'est-à-dire que ce matériel, admettons qu'on doit détruire ce bâtiment ou telle infrastructure, on peut récupérer une partie de ce matériel pour reconstruire quelque chose ailleurs. Et en dernier cas, c'est de récupérer les matériaux. Par exemple, en fin de vie, quand vous allez, au lieu de mettre tout ça en décharge, on peut imaginer de récupérer une partie du béton ou de récupérer même certains déchets qui vont être brûlés. On peut récupérer les cendres pour faire un substitut de sable.
Radia sur le sable, c'était un dossier proposé ce matin par Marion Urban. La traduction des parties en anglais était assurée par mon collègue Silvio Dolzan, qu'il en soit ici remercié. Et puis vous avez également entendu des extraits du documentaire de Denis de Lestrac, Sable, enquête sur une disparition, un film de 2013 et probablement disponible en DVD. Restez avec nous, on va maintenant aller se balader le long des berges toutes fraîches du Nant d'Avril à Genève et on y va à pied et au soleil. Walking in the Sun, c'est Travis.
Infotrafic RTS.
Sur le contournement de Genève, le trafic est dense et ralenti entre Bernay et la douane de Bardonnay en direction de la France. Sur l'axe Genève à Ost, un temps d'attente d'1 heure est annoncé au péage français du tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie. Sur l'axe Lucerne-Chiasson, au compte 25 km de bouchon entre Bouox et le portail nord du tunnel du Gothard en direction du Tessin, ce qui correspond à une attente de 4 heures environ, et il est conseillé d'emprunter évidemment un parcours alternatif, par exemple l'axe du Grand Saint-Bernard ou celui du Simplon.
Prise de terre sur la première.
Je dois dire à Jennifer Sloop que je suis un petit peu étonnée parce que on le voit pas, ce ruisseau, ce Nant d'Avril. On le voyait pas avant parce qu'il était canalisé, et on le voit toujours pas aujourd'hui. Là, on est le long de la route du Mandement, sur la commune de Mérin. Donc c'est la route qui relie Satigny. Il y a l'aéroport qui est pas très loin. On a une petite zone aménagée ici. Et ce Nant d'Avril, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi discret.
Alors c'est sûr qu'il y a pas mal de végétation herbacée en ce moment qui le cache un petit peu, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle on a créé ces placettes pour l'accueil de la population, parce que depuis ces placettes, on voit beaucoup mieux ce nouveau petit cours d'eau.
Nouveau petit cours d'eau, pas exactement quand même, hein, le Nant d'Avril a toujours coulé ici, en tout cas de mémoire d'homme, entre France et Suisse, sur un peu moins de 6 km, ou un peu plus de 5 km si vous préférez. Simplement, pendant plus de 60 ans, on ne le voyait plus, à l'image de bien des rivières suisses soumises à la volonté des hommes. Cette époque est révolue, et le canton de Genève, au diapason de la politique confédérale en la matière, libère ses cours d'eau de leur carcan de béton. Petite histoire d'une renaturation en compagnie de Jennifer Sloop, chef de projet au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture du canton de Genève, et Alexandre Vizard, directeur du service renaturation des cours d'eau dans le même département.
On a un ruisseau d'à peu près 1 mètre de large avec deux berges bien herborisées aujourd'hui. Les plantations sont faites il y a peu. Et puis on voit qu'on a relativement peu d'eau, mais une eau de qualité, une eau claire. Et c'est une eau qui va recevoir tout soudain des poissons. On va repeupler ce petit bout de ruisseau avec des verrons, peut-être à terme avec des truites de rivière. Donc c'est essentiellement un aménagement paysager, pour le plaisir de l'œil, et puis aussi pour que ça puisse réagir au niveau de la faune et de la flore.
Cette petite rivière, elle avait beaucoup souffert ces dernières années.
Oui, donc comme on le voit sur ce secteur-là, il y a une grande partie qui est canalisée, c'est-à-dire qu'on ne la voit plus, on ne le voit plus. Le Nant d'Avril, il a été complètement enterré, et certainement qu'à l'époque, c'était pour différentes raisons. Entre autres aussi, sa qualité qui était vraiment tout à fait médiocre. Et puis, il y avait des besoins de pouvoir récupérer certaines zones, peut-être pour l'agriculture ou pour la construction de routes, etc.
C'est même pire que ça, puisqu'il recevait les eaux des collecteurs de Mérin. Et il a reçu aussi les eaux de refroidissement du CERN, qui exact. N'est pas très loin.
Mais ça, c'est terminé. En fait, à l'époque, ces eaux de refroidissement des accélérateurs du CERN étaient déversées dans le Nant d'Avril. Et vous veniez en hiver, en janvier, février, ils fumaient. L'eau était à 16-18 degrés, ça fumait, c'était assez étonnant. Le CERN a pris des dispositions pour faire un système de double échangeur de chaleur, et ceci est terminé aujourd'hui. Non, il est important...
Heureusement que c'est terminé, oui. On se dit que ça aurait pu se terminer encore plus tôt. Hein.
Oui, parce que l'eau chaude, par exemple avec les truites, c'est pas terrible, hein. Elles aiment pas trop, elles sont roses à l'arête. Dans le Nant d'Avril, où il était important pour nous, c'est qu'il faut juste savoir qu'à Genève, la quasi-totalité des cours d'eau prennent naissance en France voisine. On a finalement deux cours d'eau importants qui sont entièrement genevois au niveau de leur bassin versant. C'est la Sema du côté de Choulet-Meynier et le Nant d'Avril ici à Mérin-Satigny. Alors, on s'est d'abord occupé de la Sema parce qu'elle était très dégradée sur le plan de son physique. Et au bout de 20 ans, on s'est dit, ce pauvre Nant d'Avril, il faut quand même qu'on s'en préoccupe. Et là, ces premières étapes de travaux viennent tout en tête de bassins de la rivière, remettre à ciel ouvert, parce qu'avec ce genre d'opération, vous avez tout de suite un résultat paysager. Le public est accueilli, il y a des bancs, on a construit des tables, il y a des petites placettes. Donc c'est un projet où l'homme, finalement, il est au centre, c'est une de nos espèces cibles, puisqu'on est à côté de la cité de Mérin, plusieurs dizaines de milliers d'habitants. C'est une région qui se développe avec une rivière qu'on met à ciel ouvert. On offre finalement des promenades publiques, des espaces publics de qualité dans une région qui se construit, qui se densifie.
Alors, c'est quand même intéressant. J'aimerais qu'on s'arrête deux secondes sur cette notion, Alexandre Vizard, parce que vous dites, voilà, c'est un projet où on a mis l'homme au centre. Je ne sais pas, on pourrait se dire que l'homme a été au centre pendant longtemps, y compris pendant la politique de canalisation des cours d'eau qui a été celle des années du XXe siècle. Et on pouvait espérer que pour une fois, ce soit la nature qui soit au centre d'un projet.
En fait, on travaille vraiment sur les trois axes du développement durable. C'est évident que sur nos opérations, il y a un des éléments forts qu'on doit vérifier, c'est les aspects sécurité. Contre les inondations, là, on n'avait pas trop de soucis vu les débits qui sont en jeu, vu le fait aussi que la commune de Mérin a construit un bassin de gestion des eaux un peu plus haut. Mais donc, on n'avait pas de problème d'inondation. Par contre, au niveau biologique, c'était vraiment pas terrible. Bon, la vie ne peut pas se développer quand l'eau coule dans des tuyaux. Et puis évidemment, sur le plan social, et ça c'est aussi un des trois axes forts du développement durable, les gens ont besoin de se promener au bord des cours d'eau, ils ont besoin de se délasser, de se ressourcer. Il y a quelques années, il y a une étude qui avait été faite, on demandait aux Suisses, un échantillonnage de la population suisse, ce que c'était pour elles le bonheur. Et très souvent, ce qui ressortait, c'était se promener en famille au bord d'un cours d'eau et faire un pique-nique. Alors voilà, on est pile poil dans la cible avec ça.
Le Nant d'Avril, c'est la dernière réalisation du département de l'environnement de Genève. Il y a eu, avant le Nant d'Avril, d'autres réalisations.
Oh oui, de nombreuses. Ça fait bientôt 20 ans qu'on travaille sur la renaturation des cours d'eau, dans le service de la renaturation des cours d'eau. Et on a déjà fait de très, très, très nombreuses réalisations à travers tout le canton, principalement sur des rivières cantonales, mais également sur des rivières communales.
Combien de kilomètres de rivières au total à Genève ?
On arrive à peu près à 50 kilomètres revitalisés, remis à ciel ouvert.
50 kilomètres qui ont été revitalisés, oui, aujourd'hui, parce qu'il y a eu un bilan.
300 kilomètres en tout. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on s'intéresse beaucoup à tout ce qui touche le lac, la baignade, l'accès à l'eau. Donc on a continué résolument ces efforts pour les cours d'eau, mais en parallèle, on a intensifié, on a relancé la réflexion sur l'aménagement de plages publiques. Et on porte, ce petit service porte par exemple le chantier actuel, la plage des eaux vives.
L'objectif du canton Genève, c'est de renaturer l'ensemble des cours d'eau du canton ?
Non. Très clairement non, parce que les moyens sont d'abord limités, mais vraiment on va essayer sur chaque opération d'avoir un bon rapport coût-bénéfice, bénéfice social, bénéfice environnemental ou bénéfice économique avec la sécurité contre les inondations. J'ajoute qu'il y a pas mal de cours d'eau, propriété des communes, et c'est aux communes aussi de venir, en complément de ce qu'on fait, travailler sur leur cours d'eau.
Quels sont les prochains projets, Jennifer Schlup?
Alors, il y en a de nombreux, dont un des plus importants, je dirais, c'est encore la renaturation du Foron, qui est un cours d'eau, on va dire, transfrontalier, mais en fait, techniquement, il est entièrement français. Mais grâce au contrat de rivière que nous avons avec la France, eh bien, donc, on travaille en partenariat avec nos collègues français sur le Foron. Il y a beaucoup de choses à faire et donc c'est en cours, on est en cours de procédure d'autorisation de construire. Il y a un très grand tronçon vers Puplinge et puis d'autres projets plus ponctuels. Donc ça c'est un des projets. Il y a aussi une partie qui est encore la renaturation de l'air proche du côté français.
On parle de l'air, la rivière, parce que renaturation de l'air,
oui,
pour toute autre personne qu'à Genevois, ça prête à confusion.
Bien sûr, de la rivière, l'air, en effet. Il y a d'autres projets aussi plus ponctuels et en fonction des opportunités sur différents cours d'eau du canton. Et donc aussi différents projets qui se développent sur les rives du lac, les quais de colonie, entre autres.
Combien de temps vous donnez-vous pour réaliser ces projets ?
Écoutez, c'est une tâche. Il y a aussi une tâche permanente, parce que quand vous faites une opération... 3-4 ans après, vous avez tout à coup une crue importante qui arrive, vous devez reprendre, vous devez reconstruire certaines parties du projet.
C'est un work in progress, quoi.
Ouais, c'est... Et puis, jamais oublier qu'on travaille avec un milieu naturel, un milieu vivant. Et les rivières, au final, c'est toujours elles qui décident ce qu'elles veulent faire. Et malgré tous nos calculs d'ingénieurs, toutes nos hypothèses, la rivière, elle fait ce qu'elle veut.
Renaturer les cours d'eau, c'est la politique générale fédérale d'ailleurs aujourd'hui, partout en Suisse. On a l'impression qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on est en train de défaire tout ce qui a été fait au XXe siècle. Et on le fait avec la même assurance qu'on avait fait exactement le contraire au XXe siècle.
Alors moi, je ne vais surtout pas critiquer les anciens. Vous évoquiez le fait qu'on ait canalisé les cours d'eau. C'était une tendance dans toute l'Europe, extrêmement forte en Suisse. À partir de la fin des années 1880 jusque dans les années 20, qu'est-ce qu'on voulait faire essentiellement ? Se protéger contre les débordements des cours d'eau et les inondations et gagner des terrains, soit pour l'agriculture, soit pour l'urbanisation. Mais ce dont on s'est rendu compte depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est que ça fonctionne bien sur les aspects hydrauliques, mais ça ne fonctionnait pas sur l'aspect biologique vivant. Ça donnait des cours d'eau qui étaient morts. Donc ne critiquons pas les aînés, simplement on essaye aujourd'hui de travailler de façon différente. C'est comme les trams. Dans les années 60, à Genève, on a supprimé toutes les lignes de tram parce que la voiture était un gain social et tout le monde voulait avoir sa voiture et on entrait en conflit avec les trams. Bah, aujourd'hui, on les a remis progressivement en fonction parce qu'il y avait trop de voitures et tout était congestionné. Donc, faut jamais critiquer ce que les anciens ont fait. Ils avaient de bonnes raisons de le faire au moment où ils l'ont fait.
Je peux rajouter aussi quelque chose. Je dirais qu'on ne revient pas à un état initial. Donc on sait que c'est impossible, on ne revient jamais, quasiment jamais, à un état initial. Parce que ici, par là autour, c'était plutôt marécageux, par endroits, etc. Il faudrait démolir toute la route du Mondement, remettre entièrement à ciel ouvert, y compris le canal dans ce secteur. Donc on le refait pas, on ne revient pas en arrière. On a quand même une réflexion pour trouver une sorte de compromis entre le passé et le présent.
Eh bien, merci Jennifer Schlup et Alexandre Vizard de m'avoir accompagné en cette belle journée presque estivale, ici, sur les bords du Nant d'Avril, qui est donc la dernière réalisation de renaturation effectuée par le canton de Genève. Il est presque midi, donc je pense qu'on va aller peut-être manger un petit morceau. Et pourquoi pas pique-niquer, tiens. Ah, mais on n'a pas amené le pique-nique, dommage. Voilà, merci à Jennifer Schlup et à Alexandre Vizard de m'avoir accompagné le long du Nant d'Avril. I'm sad, sad and low. Looks like a bird, never let it go. I'm sad, sad and low. Goodbye, happiness, welcome sorrow. Now I roam and I moan, begging for change or a piece of loaf. Now I roam and I moan, longing for the days I had my mojo. 'Cause I've lost, here I've lost my soul. 'Cause I've lost, here I've lost. C'est avec le groupe Tout, groupe helvétique, comme ça ne s'entend pas du tout d'ailleurs, que se termine Prise de Terre aujourd'hui. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à cette émission. La semaine prochaine, c'est la fête de la nature. On va célébrer la nature un petit peu partout en Suisse romande et en Suisse en général. Je suis en train de vous concocter une petite surprise sonore pour célébrer
à la façon Prise de Terre, cet événement annuel dédié à la nature. Et puis on parlera aussi de pédagogie. C'est un peu l'objectif, un peu la mission de la Fête de la Nature. On parlera pédagogie écologique, comment est-ce qu'on enseigne l'environnement, la sensibilisation à l'écologie, notamment à l'école. Voilà, ça c'est le programme de la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, gardez bien les pieds sur terre, et puis rendez-vous, si vous le voulez bien, la semaine prochaine, même heure, même endroit. Vous écoutez RTS La Première, il est 11h.